monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 13 décembre 2024. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont attendus pour un sommet dimanche à Luanda sur la crise dans l'est de la RDC. Au Sénégal, le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, déchu de son poste de premier magistrat de la capitale. Médecins sans frontières met fin à ses opérations en Méditerranée centrale, vitales pour les migrants. Dans la partie magazine, focus sur la prison de Sidnaya en Syrie, présentée comme le symbole de la barbarie du régime déchu de Bachar al-Assad.
Au cours des 13 années de guerre civile, jusqu'à 100 000 personnes ont été détenues par le gouvernement syrien. Beaucoup sont toujours portés disparus.
En France, le nouveau Premier ministre François Bayrou s'engage à œuvrer à la réconciliation. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco. On commence par le journal. Les dirigeants de la République démocratique du Congo et du Rwanda se réunissent dimanche en Angola pour une nouvelle série de pourparlers visant à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC. Alexandrine Ollongon.
Les présidences rwandaise et congolaise ont confirmé respectivement la participation des deux dirigeants au sommet dimanche. Le président angolais João Lourenço, nommé médiateur par l'Union africaine, a exprimé jeudi l'espoir que le sommet de Luanda puisse déboucher sur un accord de paix. Début novembre, les deux voisins d'Afrique centrale ont mis en place un comité de surveillance des violations du cessez-le-feu dirigé par l'Angola et comprenant des représentants de la RDC et du Rwanda. Quelques semaines plus tard, Kinshasa et Kigali ont approuvé un concept d'opération définissant les conditions dans lesquelles les troupes rwandaises se désengageront du territoire congolais. Début août, l'Angola a négocié une trêve fragile qui a stabilisé la situation sur la ligne de front. Mais les deux parties ont continué à échanger des coups de feu et les affrontements se sont intensifiés depuis la fin du mois d'octobre. La capitale de la province du Nord Kivu en RDC, Goma, qui compte environ 1 million d'habitants et un autre million de personnes déplacées par la guerre, est désormais presque encerclée par les rebelles du M23 et l'armée rwandaise.
La BBC, dont le Niger a annoncé la suspension des programmes radio pour 3 mois, a assuré aujourd'hui qu'elle continuerait à couvrir la région sans crainte ni parti pris. Le gouvernement militaire au Niger accuse la BBC d'avoir diffusé des informations erronées tentant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes qui luttent contre les djihadistes. L'opposant sénégalais Barthélémy Diaz n'est plus maire de Dakar. L'État lui a retiré ses fonctions municipales à cause d'une condamnation pour un homicide remontant à 2011. C'est ce qui ressort d'un arrêté préfectoral publié ce vendredi sur les réseaux sociaux. Yacouba Ouedraogo.
Je vous déclare démissionnaire de votre mandat de conseil municipal de la ville de Dakar à compter de la date de notification de la mesure, indique l'arrêté du préfet de Dakar daté de mercredi. La révocation du titre de conseil municipal entraîne automatiquement celle de maire de Dakar, selon deux experts des textes sur les collectivités locales au Sénégal. Barthélémy Diaz a bien reçu les documents l'informant de sa déchéance comme conseiller municipal une semaine après avoir été déchu de son poste de député, affirme un membre de son entourage. L'Assemblée nationale a déchu le 6 novembre Barthélémy Diaz de son mandat parlementaire à la demande du ministère de la Justice à cause d'une condamnation pour homicide volontaire prononcée en 2017, confirmée en appel en 2022 et validée par la Cour suprême en 2023. Diaz avait été élu maire de Dakar en 2022 dans une coalition l'alliant au parti PASTEF Doucement Sonko, opposant du président de l'époque Macky Sall. Il a dénoncé une volonté de ses nouveaux adversaires de l'éliminer politiquement.
En Namibie, deux partis d'opposition qui cherchent à contester le résultat des élections du mois dernier ont obtenu ce vendredi une décision de justice leur permettant d'inspecter le matériel électoral qu'ils avaient demandé à voir. Le parti au pouvoir en Namibie, la SWAPO, a remporté les élections présidentielles et législatives du 27 novembre, prolongeant ainsi son règne de 34 ans dans cet état d'Afrique australe. Les partis d'opposition ont affirmé que l'élection était entachée d'irrégularités et potentiellement invalide en raison, entre autres, d'une prolongation du scrutin de plusieurs jours. Un Soudanais dénommé Ali Abd al-Rahman, accusé d'avoir ordonné à des milliers de miliciens janjaouides pro-gouvernementaux de commettre des atrocités, notamment des meurtres et des viols, dans la région soudanaise du Darfour, a déclaré aujourd'hui au juge de la Cour pénale internationale qui n'avait pas affaire à la bonne personne. « Je ne suis pas Ali Kouchaib, je ne connais pas cette personne », a déclaré Abd al-Rahman au juge à la fin de son procès. Les procureurs de la CPI ont déclaré en début de semaine qu'Ali Mohamed Ali Abd al-Rahman était le chef de la milice Janjaweed, connu sous le nom de guerre d'Ali Kouchaib, qui dirigeait les combattants pro-gouvernementaux au plus fort des combats en 2003-2004.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Médecins sans frontières, MSF, a annoncé aujourd'hui la fin de ses opérations de secours aux migrants en Méditerranée centrale. L'ONG met en cause les lois et politiques italiennes qui, selon elle, rendent impossible la poursuite du modèle opérationnel actuel. Rosine Monezero.
Son navire humanitaire, le Geo Barent, a fait l'objet au cours des deux dernières années de 4 sanctions de la part des autorités italiennes, imposant un total de 160 jours d'immobilisation au port, déplore l'ONG dans un communiqué. En décembre 2024, l'Italie a encore intensifié la sévérité des sanctions en facilitant et en accélérant la confiscation des navires de recherche et de sauvetage humanitaire, ajoute l'ONG. Ces sanctions, qui n'ont servi qu'à punir le navire pour avoir rempli son devoir humanitaire et légal de sauver des vies en mer, découlent de divers décrets du gouvernement ultra-conservateur de Giorgia Meloni, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son cheval de bataille. L'ONG réaffirme son engagement auprès des personnes migrantes et en particulier celles qui entreprennent la dangereuse traversée de la Méditerranée centrale, une route où plus de 31 000 personnes sont mortes ou portées disparues depuis 2014.
En France, le président Emmanuel Macron a nommé ce vendredi son allié François Bayrou Premier ministre. Il s'agit d'un défi immense pour le centriste qui sera chargé de dénouer la crise majeure dans laquelle se débat la France depuis la dissolution de l'Assemblée en juin. Le point avec Éric Manirakiza.
La nomination de M. Bayrou, vétéran de la politique française âgé de 73 ans et allié historique du président Macron, intervient 9 jours après la chute du gouvernement de Michel Barnier et renversée le 4 décembre par une censure historique votée par des députés de gauche et d'extrême droite. M. Bayrou devient ainsi le 6e locataire de Matignon, lieu de travail des premiers ministres français, depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, et le 4e en 2024, une instabilité de l'exécutif que n'avait pas connue la France depuis des décennies. À la tête d'un gouvernement d'intérêt général resserré, voulu par Emmanuel Macron, il va être confronté à une tâche immense avec pour priorité le budget 2025. Dans un contexte de colère des agriculteurs et de multiplication des plans sociaux, les niveaux des déficits et de la dette seront une réalité qui s'imposera à tout gouvernement, quel qu'il soit, avait prévenu Michel Barnier avant d'être renversé. En attendant que ce nouveau budget soit adopté, un projet consensuel de loi spéciale permettant d'assurer la continuité du fonctionnement de l'État sera examiné lundi par l'Assemblée nationale.
Le Congrès américain s'efforce à nouveau ce vendredi de trouver un accord budgétaire qui permettrait d'éviter la paralysie de l'État fédéral à une semaine de la date limite et alors que les fêtes de fin d'année approchent. Les élus ont jusqu'au 20 décembre pour adopter une mesure de financement, même temporaire, des services publics fédéraux, sans quoi les États-Unis connaîtraient un nouveau shutdown. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré aujourd'hui à Bagdad que son pays s'engageait à assurer la sécurité de l'Irak et à empêcher une résurgence de groupes djihadistes État islamique après le renversement du président Bachar al-Assad en Syrie voisine. M. Blinken a aussi réaffirmé l'engagement des États-Unis à travailler avec l'Irak sur la sécurité et a toujours œuvré pour la souveraineté de l'Irak afin de s'assurer qu'elle soit renforcée et protégée après des entretiens avec le premier ministre irakien Mohamed Shah al-Soudani. Des milliers de Syriens en liesse sont descendus aujourd'hui dans la rue à travers le pays pour fêter la victoire de la révolution après la chute de Bachar al-Assad. Des milliers d'hommes et de femmes et enfants ont convergé dans le centre des principales villes à Damas, la capitale, Homs et Alep dans le nord ou encore à Souida dans le sud. À l'issue d'une offensive de 11 jours, une coalition de groupes rebelles dominée par HTS s'est emparée le 8 décembre de Damas, mettant fin à un demi-siècle de pouvoir de la famille Assad. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky va participer mercredi à Bruxelles à une réunion avec les dirigeants français, britanniques, allemands, italiens, polonais, ainsi que ceux de l'OTAN et de l'Union européenne pour discuter du soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky et certains des pays européens alliés de l'Ukraine ont appelé au déploiement de troupes européennes dans le pays comme garantie de sécurité en cas d'accord de paix avec la Russie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
L'agence américaine spécialisée dans le financement du développement d'IFC a officiellement inauguré son premier bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer les partenariats entre les États-Unis et les pays de la région en mobilisant des investissements pour stimuler le développement économique et répondre aux défis dans plusieurs secteurs clés. En Afrique, la DFC revendique plus de 13 milliards de dollars d'investissements répartis sur 300 projets. L'avionneur américain Boeing va investir 1 milliard de dollars en Caroline du Sud pour doper la production de ses appareils 787 Dreamliner, a-t-il annoncé dans un communiqué jeudi. À fin novembre, son carnet de commandes portait sur 6268 avions. Boeing prévoit de passer à une cadence de 10 avions Dreamliner par mois d'ici 2026, précise-t-il dans son communiqué. L'investissement de 1 milliard de dollars s'accompagnera de la création de 500 nouveaux emplois sur 5 ans. À fin 2023, il employait près de 171 000 personnes.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Une fois n'est pas coutume, nous parlons de Formule 1. Le Rwanda se porte officiellement candidat à l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1.
Oui, le président Paul Kagame a annoncé que son pays va se porter candidat à l'organisation d'une course de Formule 1 qui aurait lieu à Kigali. C'était lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération internationale du sport automobile dans la capitale rwandaise.
I'm happy to formally announce that Rwanda...
Je suis heureux d'annoncer officiellement que le Rwanda s'est porté candidat pour amener le frisson de la course automobile en Afrique en accueillant le Grand Prix de Formule 1.
Formula One Grand Prix. A big thank you to Stefano.
Un grand merci à Stefano Domenicali et à toute l'équipe de la Formule 1 pour les progrès accomplis jusqu'à présent dans nos discussions.
In our discussions so far.
La dernière course du championnat du monde organisée sur le continent a eu lieu en 1993 en Afrique du Sud, sur le circuit de Kyalami, mais cette piste située près de Johannesburg n'est plus aux normes et doit d'abord subir des travaux de remise en conformité.
Justement, c'est ce que comptent faire les autorités sud-africaines.
Effectivement, le rugissement des moteurs de Formule 1 à plein régime devrait à nouveau emplir l'air du circuit du Grand Prix de Kyalami. Dans le nord de Johannesburg, la nation arc-en-ciel accélère sa quête de l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois depuis 1993. Gabi Dorsil.
Les efforts déployés par l'Afrique du Sud pour accueillir la première course de Formule 1 depuis 30 ans s'accélèrent. Et les fans de sport automobile comme Anian Baloyi ne peuvent contenir leur excitation.
Il faut que ça arrive. Il y a tellement de gens le dimanche après-midi qui restent chez eux à regarder la Formule 1.
L'Afrique du Sud s'efforce de répondre aux normes rigoureuses requises pour accueillir un Grand Prix de Formule 1. Pour obtenir la certification grade 1 de la Fédération internationale de Formule 1, Kyalami s'est associé à un grand cabinet de conseil en ingénierie du sport automobile pour créer une feuille de route pour la qualification. Selon les autorités, le circuit est prêt à 90%. La construction pourrait être achevée dans les 18 mois, à temps pour la saison 2027 de la F1. Mais certains pensent que l'Afrique du Sud n'est pas prête à accueillir le circuit pour d'autres raisons. Lors de la Southern African Endurance Series qui s'est tenue à Kyalami, le directeur général de l'événement, Wayne Riddle, a estimé qu'il fallait abaisser les barrières pour encourager davantage d'Africains et d'entreprises à investir dans le sport.
Ma question est la suivante. Sommes-nous prêts pour la Formule 1? Je pense certainement qu'une minorité de notre population répondra par l'affirmative. Je ne suis pas sûr que la majorité de la population comprenne les sports mécaniques. Alors, sommes-nous prêts? Je ne le pense pas.
Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, a aussi appelé à l'inscription d'une course en Afrique au calendrier de la F1, soulignant la nécessité pour l'Afrique de retrouver sa place dans le sport.
Merci Gabi.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. La plupart des habitants de Ghana Town, un village de pêcheurs situé sur la côte gambienne, sont nés en Gambie, tandis que leurs parents ou grands-parents ont émigré du Ghana il y a plusieurs décennies. Bien qu'ils ne possèdent pas le statut officiel d'apatride, ils se retrouvent sans papier ghanéen ni gambien, ce qui complique considérablement leur accès aux services de base. Les détails avec Gini Niwa.
Nés sur le sol gambien, éloignés par des milliers de kilomètres du pays d'origine de leurs grands-parents ou de leurs parents, nombre d'habitants du village de pêcheurs Ghana Town n'ont de papier ni du Ghana ni de la Gambie.
Ils ont dit que même si vous êtes un Ghanéen né en Gambie, vous êtes toujours un étranger. Et c'est ainsi qu'ils nous classent, parce que nous portons des noms ghanéens. Et ils ont dit que nos noms signifient que nous sommes des étrangers.
Les gens de Ghana Town sont menacés d'apatridie, empêchés de s'inscrire à l'école, de se faire soigner et d'exercer leurs autres droits.
Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'étais le meilleur étudiant et j'ai donc obtenu une bourse pour étudier en Inde. Mais mes camarades sont partis parce qu'ils sont considérés comme des Gambiens. Ils ont obtenu leur passeport et sont partis. Quant au mien, chaque fois que je me rends au service de l'immigration, ils me disent que je suis Ghanéen de Ghana Town et ils me refusent un passeport.
Ghana Town a vu le jour à la fin des années 1950 avec l'arrivée de pêcheurs partis du Ghana à la recherche d'eau poissonneuse et d'un avenir meilleur. Ils sont environ 2000 aujourd'hui. La constitution gambienne reconnaît la nationalité aux personnes nées sur le territoire d'au moins un parent gambien.
Ils sont dans cette situation depuis de nombreuses années. Dans cette situation, la plupart de leurs droits humains fondamentaux, comme l'accès à la nationalité, l'accès aux équipements publics, leur sont quelque peu difficiles. Cette évaluation vise donc à établir les faits concernant certains des défis auxquels ils sont confrontés lorsqu'ils obtiennent la nationalité, ainsi que certaines des réformes dont nous avons besoin pour résoudre le problème des habitants de Ghana Town.
Le HCR estime à près d'un million de personnes le nombre d'apatrides en Afrique, victimes notamment de discrimination liée à la race ou au genre.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des scientifiques kenyans affirment étudier un verre de farine originaire d'Afrique et capable de consommer, de biodégrader le plastique. Selon les experts, ce verre produit des enzymes qui peuvent aider à décomposer les déchets plastiques. Jumba Mbajanga nous en parle de Nairobi au Kenya. Son reportage est relaté par Thierry Kaori.
Evaline Wambui et d'autres scientifiques travaillent dans ce laboratoire du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes à Nairobi. Elle explique qu'ils étudient un type de verre de farine capable de manger et de décomposer les plastiques.
Cet insecte va être utile parce que nous avons identifié premièrement qu'il peut consommer le plastique, en particulier le polystyrène, et deuxièmement qu'il possède un groupe de bactéries qui aide au processus de dégradation du plastique.
Wambui et son collègue Chrysanthus Mbitanga font partie des 4 experts du centre qui ont co-signé un rapport publié en septembre dans la revue Nature.
L'avantage de cet insecte est qu'il est originaire du Kenya et de l'Afrique en général, comparé à d'autres vers de farine qui ont été décrits dans d'autres parties du monde, comme le ver de farine jaune. Cela nous permet donc d'avoir une solution domestique et un insecte qui s'est adapté à notre environnement climatique et qui a été capable de survivre et de prospérer dans cet environnement.
La pollution plastique est l'un des plus grands défis environnementaux auxquels le monde est confronté, selon le programme des Nations Unies pour l'environnement. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année, mais moins de 10% sont recyclées. Les scientifiques du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes étudient les moyens de collecter les bactéries vivantes dans les intestins des vers et de déterminer si elles peuvent être utilisées pour gérer les déchets plastiques. Evaline Wambui est chercheuse au Centre international de physiologie et d'écologie des insectes.
Ces bactéries peuvent être exploitées à partir des insectes et nous pouvons ensuite produire des millions et des millions de ces bactéries qui peuvent être utilisées pour dégrader les déchets de polystyrène.
Mais certains défenseurs de l'environnement ne sont pas convaincus que ces résultats résoudront le problème des déchets plastiques. Gérance Moutoual fait campagne contre les déchets plastiques pour Greenpeace Afrique.
Nous n'avons trouvé que des insectes qui ne dégradent qu'un certain type de plastique, le polystyrène, le PET. Et nous avons beaucoup de formes de plastique. Qu'en est-il des autres formes de plastique? Et aussi, une fois que ces insectes ont mangé ces plastiques, quel est le produit dérivé?
Chrysanthus Tanga, du Centre international de physiologie et d'écologie des insectes, répond.
Nous ne disons pas qu'il s'agit d'une solution miracle, mais ce que nous disons, c'est qu'il pourrait s'agir d'une approche intégrée de la gestion des plastiques. Si cela peut réduire la dégradation du plastique de 30 à 50%, cela aura un impact très important en termes de gestion des déchets sur le continent.
Selon Gérance Moutoual de Greenpeace Afrique, la meilleure façon de résoudre le problème du plastique est d'en produire moins.
Nous avons beaucoup de plastique problématique et inutile, comme les sachets, les bouteilles en PET, dont nous n'avons vraiment pas besoin, les pailles et le reste. Nous devons réduire la production de ces produits.
Moutoual explique que le Kenya est l'un des 34 pays qui ont interdit les sacs plastiques à usage unique en Afrique, alors que le continent continue de se battre avec le problème de la pollution plastique.
Zimbabwe, pour tenter de mettre fin à la polarisation des médias, une organisation organise des rencontres sportives pour les journalistes, des médias privés et publics. C'est un reportage de Columbus Mavunga, le récit est de Rosine Monezero.
D'habitude, ces journalistes s'affrontent pour les dernières nouvelles. Mais aujourd'hui, ils s'affrontent sur un terrain de football à Harare. Cela fait partie d'une nouvelle initiative visant à mettre fin à la polarisation de l'environnement médiatique. La journée sportive est organisée par l'organisation à but non lucratif Gender and Media Connect. Sa directrice nationale, Patience Izirima, espère que des événements sportifs comme celui-ci réduiront la polarisation des médias au Zimbabwe et amélioreront le bien-être des reporters.
Cette journée sera cruciale car nous avons vu des médias de tous bords se réunir pour organiser cet événement. Je pense que c'est une façon pour les médias de se réunir, de travailler en réseau et de trouver un terrain d'entente dans le cadre de leur travail.
L'un des participants est Léopold Munende, reporter principal pour le média New Zimbabwe et président de l'Association des jeunes journalistes du Zimbabwe. Munende dit qu'il voit les mêmes événements rapportés de manière totalement différente. Selon lui, le fait de se réunir de manière détendue pourrait contribuer à changer cette situation.
Nous avons l'occasion de rencontrer des journalistes de différents secteurs de l'industrie des médias, qu'ils soient publics ou privés. Nous discutons des articles que nous écrivons et qui suscitent de nombreuses discussions.
Geoffrey Maregere, de la société publique Zimbabwe Broadcasting Corporation, qui est considéré comme un soutien du parti au pouvoir, la ZANU-PF, pense également que les jeux sont une bonne idée.
Les jeux aident à travailler en équipe, peu importe pour qui vous travaillez, en tant que journaliste, en tant qu'équipe. Même lorsque nous retournons au travail, les désaccords et le mépris des autres diminuent. Quel que soit notre sexe, nous pouvons jouer dans une même équipe, qu'il s'agisse de netball ou de football.
Un autre avantage, selon les organisateurs, est que les sports amélioreront la santé des participants et les aideront à réduire le stress. La commission des médias du Zimbabwe, nommée par le gouvernement, a appelé à mettre fin à la polarisation des médias dans l'intérêt du public. Godwin Firi, son secrétaire exécutif, estime que les médias peuvent améliorer la situation.
Refuser d'être les porte-parole des politiciens. Parler au nom de la profession quand vous vous retrouvez à répéter une position politique au détriment des principes journalistiques, alors vous avez déjà un problème.
Selon M. Firi, lorsque les informations sont polarisées, il est plus probable que le public et les annonceurs s'en détournent, ce qui entraînerait la fermeture des médias.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Au lendemain de la chute du gouvernement de Bachar al-Assad, de nombreux Syriens ont afflué à la prison de Sidneya, tristement célèbre et connue sous le nom d'abattoir humain, à la recherche de leurs proches disparus. Un reportage de Johan Cabasses Vega à Sidneya, le récit est de Dilédico.
La prison de Sidneya était un centre de détention redouté, géré par le gouvernement syrien. Connue pour ses tortures brutales et ses innombrables exécutions, elle a reçu le surnom effrayant d'abattoir humain. Les forces rebelles ont libéré les prisonniers à la suite de l'effondrement du régime de Bachar el-Assad. Des milliers de personnes se sont rassemblées ici dans l'espoir de retrouver leurs proches, comme cet homme.
Ils l'ont amené à Sidneya alors qu'il n'était qu'un garçon de 14 ans. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas s'il est toujours à Sidneya, s'il est vivant, s'il a été tué ou s'il est détenu dans une cellule souterraine.
Au cours des 13 années de guerre civile, jusqu'à 100 000 personnes ont été détenues par le gouvernement syrien. Beaucoup sont toujours portés disparus et des citoyens désespérés espèrent les retrouver à Sidneya.
Je cherche mon frère. Quelqu'un m'a dit il y a 10 jours qu'il était encore en vie. J'ai besoin de mon frère.
L'assaut de la prison par les forces rebelles a non seulement permis de libérer de nombreux prisonniers, mais aussi de révéler les archives de la prison. Les familles désespérées examinent maintenant les documents éparpillés sur le sol dans l'espoir de trouver des informations sur leurs proches disparus ou exécutés. Certains de ces documents contiennent les noms de ceux qui sont morts ou ceux qui ont été exécutés pendant leur détention. Des foules se rassemblent, écoutant attentivement la lecture à voix haute de ces sinistres listes noires. Des informations faisaient état de milliers de prisonniers détenus à Sidneya, chaque cellule de 5 mètres sur 5 étant occupée par plus de 100 personnes. Cependant, lorsque le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham est arrivé, il n'a trouvé que 300 prisonniers à l'intérieur. Cette situation a alimenté les spéculations sur des exécutions massives, des transferts de prisonniers ou sur l'existence de cellules souterraines. Pour la plupart des personnes qui se sont rendues sur place, les recherches sont restées sans réponse. Elles espèrent que justice sera faite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïba, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui.